Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima à Outa.
Pas de glissement ni de fraude pour les élections prochaines et dépolitiser la CENI. Autant des déclarations de Martin Fayoulou dans son meeting d'hier samedi ici à Kinshasa. D'autres détails dans cette édition du journal. Et puis la rentrée scolaire, c'était le 4 octobre dernier, mais depuis, dans les territoires d'Idiofa ou Kwilu, les difficultés persistent et rendent cette rentrée difficile dans les écoles publiques. D'abord, la grève des enseignants, ensuite, plusieurs écoles endommagées par les pluies. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Michel Mouvoudi, médecin et spécialiste en santé publique. Il nous parlera de grandes lignes de son ouvrage intitulé « Leadership et performance organisationnelle ». Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante, l'organisation des élections en 2023, la réforme des institutions, la situation socio-économique, la taxe RAM et l'insécurité dans l'Est de la RDC sont là, entre autres, les questions qui ont été abordées par Martin Fayoulou Madidi lors de son meeting tenu hier samedi ici à Kinshasa pour le Matindo.
Pas de glissement ni de fraude pour les élections prochaines, a martelé Martin Fayoulou lors de son meeting devant des milliers de militants de sa plateforme Lamouka. Parlant de la Commission électorale nationale indépendante, la question, selon lui, n'est pas liée à l'homme, mais plutôt à la dépolitisation de cette institution. Au sujet de l'insécurité dans l'Est de la RDC, plusieurs personnes sont régulièrement massacrées, a affirmé le président du parti politique Engagement citoyen pour le développement SID en dépit de l'état de siège. Et demande aux autorités de lever l'état de siège qu'ils considèrent comme une distraction et de revenir à l'administration civile. La taxe RAM a été également évoquée pendant ces meetings. Cette taxe doit être annulée et reverser l'argent dans les trésors publics. Il a aussi appelé l'inspection générale des finances à se saisir de cette question. Attendu à 13h par ses militants, Martin Fayoulou Madidi a débuté son meeting à 16h sur le terrain Sainte-Thérèse du quartier 6 dans la commune d'Engili.
Et puis, la tenue des élections en 2023 est une question de volonté politique et non un problème technique et financier. Une feuille de route a déjà été élaborée et se trouve sur la table du Premier ministre. Il en découle que les préparatifs des opérations mutualisées et préélectorales devront se terminer le 15 mai 2023. Elles concernent l'identification des populations, le recensement scientifique et l'enrôlement des électeurs. Ces révélations ont été faites au cours de la journée scientifique organisée par la faculté de droit de l'Université de Kinshasa ce samedi autour du thème « Identification et gouvernance politique en République démocratique du Congo ». Reportage, Diafungoy.
C'est un débat républicain sur les enjeux majeurs des élections. Peut-on les organiser en 2023 avec les trois opérations mutualisées entre la CENI, l'ONIP et l'INS? Corneille Nanga de la CENI dit oui, mais à condition de commencer maintenant, loin des pressions politiques et des manifestations de rue.
Il est donc indispensable qu'on commence. Avec la volonté politique, on peut encore tenir 2023 et malheureusement, le Congo n'a pas le choix. Il est vraiment indispensable que on commence les préparatifs. Parmi ces préparatifs, c'est aussi trouver les remplaçants des Nanga.
Doyen de la faculté des droits, le professeur Jean-Louis Essambo explique les motivations de ces débats.
Dans des pays suffisamment organisés, lorsqu'il y a un débat national sur une question donnée, l'université doit se prononcer. Et c'est donc interpellé par la question du recensement et des débats qui se passent dans notre pays autour de la gouvernance que la faculté de droit de l'université de Kinshasa a créé-t-il rencontré cette préoccupation du service à rendre à la communauté. Je crois que la recommandation phare à partir de toutes ces interventions, c'est qu'il faut absolument que le recensement de la population se fasse dans notre pays.
Aucun État normal ne peut se développer sans connaître le nombre de sa population et sans service de l'État civil. Tous les intervenants à ces débats en sont convaincus.
Autre nouvelle, changement d'approche dans les relations et coopération entre l'Afrique et la France. C'est un des nouveaux paradigmes de traitement des Africains auxquels viennent d'aboutir les discussions du nouveau sommet Afrique-France NSFA, commencé le 8 octobre au sud de la France à Arena à Montpellier. Selon un des participants, l'avocat Nsi Luanda, président du comité des observateurs des droits de l'homme et défenseur des droits de l'homme congolais exilé depuis plusieurs années en France, Ce sommet réunit 3000 Africains de la diaspora en France et les délégués de la jeunesse des pays anciennement colonisés par la France pour dialoguer et réfléchir sur une nouvelle méthode de coopération entre la France et les pays africains. Nsi Luanda nous fait le compte-rendu au micro de Jeff Ngoy.
Les discussions ont été très profondes pour que la coopération entre l'Afrique et la France soit désormais sincère. Des engagements ont été pris par le président français pour que les relations changent de narratif, mais aussi changent de paradigme. C'est comme ça que même l'organisme français AFE, l'Agence française de développement, doit changer de nom. Parce que le terme développement a été banni par l'ensemble des participants. Il y a des vocabulaires qui doivent être éliminés dans le langage des négociations entre les États africains et la France, notamment l'Afrique pauvre, l'Afrique des misères, aide à l'Afrique, aide au gouvernement africain. C'est de nouveaux vocabulaires qui doivent être inventés pour un respect mutuel entre les États. Nous avons jeté les bases pour que désormais la société civile, la jeunesse, soit toujours associée aux négociations.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, direction Kwilu, précisément dans les territoires du Diofa. La rentrée scolaire n'est pas effective dans les écoles du secteur public. Cela d'abord à cause de la grève des enseignants de ce secteur décrétée depuis cette même date, indique le président de la nouvelle société civile congolaise locale, Arsène Kassiama, et l'administrateur de ce territoire, Jean-Marie Lassoué. Hormis ces blocages, ces derniers parlent aussi de plusieurs écoles qui ont été endommagées par la pluie et les vents il y a quelques semaines. Ils sollicitent l'intervention du gouvernement ainsi que des personnes de bonne volonté qui pourront aider à reconstruire ces écoles. Irène Boma nous en dit plus.
Depuis le début de la rentrée scolaire lundi 4 octobre courant, un silence total s'observe du côté des écoles publiques du territoire du Diofa. Aucune de ces écoles n'a ouvert ses portes à cause de la grève des enseignants. C'est ce qu'a dit le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de ce territoire, Arsène Kachama.
Les écoles publiques n'ont pas repris. Jusqu'alors, n'ont pas repris. Aucune école a repris. Ils ont décidé une grève sèche. Les écoles privées ont repris depuis le 4.
L'administrateur du territoire du Diofa qui dit aussi la même chose, s'est dit préoccupé par la situation des écoles qui ont été détruites les mois derniers par les vents. À l'en croire, dès que les activités scolaires vont reprendre normalement, les élèves de ces écoles vont étudier sous les arbres. Jean-Marie Lassoué sollicite l'intervention urgente du gouvernement provincial et central afin de reconstruire ces établissements scolaires.
À Mokala, il y en avait beaucoup. À Idiofa, il y a aussi une école. À Kalo, il y en avait aussi. Ces écoles qui ont été écroulées, c'est aussi dont les écoles, la toiture a été emportée. Nous avons fait notre rapport au niveau de la hiérarchie et les enfants ne vont pas étudier comme ça à la belle école. Nous attendons vraiment une intervention.
La nouvelle société civile du Diofa plaide aussi auprès des gens de bonne volonté afin de venir en aide à ces enfants qui manquent d'endroits où étudier. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'intersyndicale de cette province hausse le ton sur la persistance des grèves des enseignants, des écoles publiques et le personnel non médecin. Son président provincial déplore l'inaction du gouvernement central face à ses revendications. Révérend David Assani Wakapinga demande aux institutions de la République de se pencher sur cette question pour éviter le slogan « Ils vont se fatiguer eux-mêmes pour répondre après les services ». Assani Wakapinga s'exprime dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Ça devient une règle, c'est-à-dire pour chaque ouverture d'année scolaire, les enseignants méditent sur leur sort professionnel, lancent un ultimatum, acquis des droits, sans succès. Expérimenté à cet effet, le gouvernement central aurait déjà pris des dispositions utiles pour que cela n'arrive, n'ayant pas prévu ce genre de cas, pourtant répétitifs. Voici les conséquences fâcheuses qui en découlent. S'agissant de la grève des infirmiers, qui d'ailleurs perdure, nous nous posons la question de savoir si le gouvernement central pèse le poids des conséquences néfastes de cette grève qui dépasse même les pressions pandémiques au pays. Les deux grèves palpées fondées mettent en cause la santé physique et la santé intellectuelle de la population du pays qu'il faudra protéger. Que le silence à ces préoccupations ne nous amène pas à se rappeler le temps de Tika Bango Bakolemba Pe Bakozonga Bango Mokona Musala, des tristes mémoires.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, pendant que le prix du litre de carburant est à 2150 francs congolais à la pompe, les petits revendeurs dans la ville le vendent à 2000. Face à cette situation, l'association des pétroliers, qui regroupe tous les importateurs de carburant, veut comprendre. Déjà les clients, eux, ont fait leur choix. Ils ont déserté les stations-service. Pour y voir clair, la PENOKI, l'association des pétroliers du Nord Kivu, a invité vendredi les responsables des regroupements des revendeurs des produits pétroliers pour trouver un compromis. Rosalie Zawadi.
Lorsqu'un détaillant censé s'approvisionner chez vous revend votre produit à un prix inférieur au vôtre, cela vous oblige à vous arrêter un peu pour comprendre. Et c'est ce qu'a fait l'association des pétroliers vendredi à Goma. Désiré Rwabaenda est chef de brigade au sein de la PENOKI. Nous avions un problème des petits revendeurs des produits pétroliers, car nous constatons qu'ils revendent les carburants à un prix inférieur à celui de la structure des prix de l'État. C'est pourquoi nous les avons appelés pour échanger avec eux. Leur prix est inférieur à celui des stations-service. Alors nous nous posons la question de savoir d'où vient leur carburant. Merendi Roussangwadeo coordonne un regroupement des revendeurs des produits pétroliers à Goma. Comme ses collègues, il dit ne pas connaître la provenance du carburant qu'on revend à bas prix dans la ville. Mais il revient sur l'accord trouvé avec les pétroliers à l'issue de la concertation. Nous disons que le prix d'un litre de carburant est de 2150 francs congolais et nous avons obtenu un compromis à ces sujets. Tous nous devons vendre à ces prix. Nous avons également d'envoyer une commission sur terrain pour dénicher ceux qui ne respectaient pas cet engagement. Et l'État s'en occupera. Les délégués de la division de l'économie dans cette rencontre a pour sa part rappelé aux deux parties que nul n'a le droit de violer la structure des prix fixée par les gouvernements. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
On reste dans la région pour parler cette fois-ci sécurité. Le coordinateur provincial du programme DDR communautaire au Nord Kivu déplore la résurgence de la violence causée par l'activisme de deux groupes armés nouvellement formés en territoire de Lubero et Masisi. Alors qu'en ce moment, il est attendu le lancement du programme national de réinsertion communautaire et stabilisation, M. Jacques Katembo parle notamment du groupe de Machano qui occupe de nombreux villages dans le groupement Oufamandou et d'une faction des résistants nationalistes lumumbistes RNL, qui vient de se créer dans le groupement Manzia, chefferie de Bachouaga, dans le Lubero. Il appelle ce groupe armé à revenir dans le processus de démobilisation. Il est dit ici au micro de Bernardin Nyangi.
Dans le territoire de Lubero, vers Katanga, il y a un groupe armé qu'on appelle Kifagio, qui vient du RNL. Il y a déjà 3 jours, ils ont attaqué le village de Maeba. Pas plus tard qu'hier aussi, ils ont attaqué le village de Mukondo Katanga. Et la population est en déplacement. À Masisi, il y a le problème de Machano, qui est en train de faire terreur là-bas. Et vous savez que Machano, c'est parmi les gens qui s'étaient déjà rendus et qui avaient été à Mubambiro. Et faute de prise en charge, il est rentré. Et aujourd'hui, il est en train de faire le combat contre la population, parce qu'il est en train de provoquer le déplacement, une chose que nous regrettons fort. Nous, comme DDR communautaire, nous voulons demander à tous les groupes armés du Nord Kivu qui étaient déjà prêts à se rendre, de se préparer parce que le programme est en train d'être lancé. Nous savons qu'il y avait déjà beaucoup de combattants qui s'étaient déjà rendus au Nord Kivu par notre programme. Malheureusement, il y a plus de 3000 qui auraient gagné leur milieu. Et il faut savoir que pour nous, le DDR, c'est le président de la République. Il a déjà nommé le coordonnateur national. Et nous sommes allés voir à Kinshasa pour lui amener les rapports que le groupe de du Nord qui vont déjà signer les actes d'engagement et n'attendent que le lancement de ce programme.
Selon les DDR communautaires, seulement 2000 combattants sont dans différents camps de reddition à travers la province sur plus de 5000 qui s'étaient déjà rendus depuis début 2020. Au Kassai Oriental, inauguration ce samedi à Mbujimayi du bloc opératoire ainsi que de la salle d'hospitalisation de la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël dans la commune de la Kanchi. Cette clinique reçoit près de 35 000 malades par an, affirme son directeur. La cérémonie d'inauguration de ces deux bâtiments a été présidée par le ministre provincial de la Santé en présence du ministre d'État de la République de Hongrie, des évêques des diocèses de Mbujimayi et Kabinda ainsi que de quelques personnalités politiques et civiles. Cela après une grande grande messe d'action de grâce co-célébrée par les évêques des diocèses de Mbujimayi et de Cabinda. Esther Dalafina, reportage.
Ces deux bâtiments de la clinique Saint-Raphaël serviront des blocs opératoires et d'hospitalisation de malades. Docteur Simon-Pierre Kasungu, directeur de cette clinique, a indiqué que ce centre hospitalier contribue au recul de la cécité visuelle par la prestation des soins oculaires de qualité.
Ce jeune cabinet est tombé à pic car il devrait couvrir une grande fossée laissée par les services d'ophtalmologie de l'hôpital de la Miba, obligeant les patients d'effectuer des distances pour aller se faire soigner à la Binda.
L'initiateur du projet, Dr Richard Hardy, a exprimé sa joie de voir son rêve devenir une réalité. Il a demandé aux prestataires de cette clinique de toujours se professionnaliser pour mieux servir les malades.
Chers médecins, chers infirmiers, chers personnels, c'est formation, qu'on puisse être encore avec beaucoup plus de puissance auprès des malades.
Le secrétaire d'État de la République de la Hongrie, Tristan Azbez, a indiqué que le programme Hungary Helps, financé par son pays, restera proche de la RDC dans le but de venir en aide aux plus démunis.
Le programme de Hungary Helps aide dans 41 pays démunis.
Signalons que la construction de la clinique ophtalmologique Saint-Raphaël a été financée par plusieurs partenaires, dont notamment l'association Alliance Internationale France, l'ONG Lumière pour le Monde. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La présidence du Mali a annoncé ce 9 octobre la libération de Gloria Narvaez. Cette religieuse colombienne avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, dans le cercle de Koutiala, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, où elle travaillait depuis 6 ans comme missionnaire. La présidence du Mali salue le courage et la bravoure de la sœur, précisant que cette libération est le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignement. Arrivée à Bamako hier samedi, Gloria Narvaez a été embarquée dans la nuit de samedi à ce dimanche sur un vol pour l'Italie.
L'invité.
Leadership et performance organisationnelle, c'est le titre d'une nouvelle publication du docteur Michel Mouvoudi, docteur en médecine et spécialiste en santé publique. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient ici avec Jean-Marc Matouaki. Suivez.
Docteur Michel Mouvoudi, à quel public destinez-vous cet ouvrage?
L'ouvrage que je viens de sortir s'adresse à tout le public parce que tout le monde a ce potentiel un jour d'être dirigeant. Et donc, pour moi, il était question de commencer déjà à préparer les personnes qui veulent justement devenir un jour des dirigeants de sociétés, d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, des services publics ou privés, pour justement que les gens comprennent que lorsqu'on est dirigeant, c'est pas parce qu'on vous a nommé que vous devenez un leader, mais qu'il y a justement un contenu qu'il faut développer pour pouvoir conduire les organisations vers la performance. Donc c'est un ouvrage destiné à tous ceux-là qui veulent apprendre d'abord, mais deuxièmement aussi à ceux-là qui aspirent à diriger une entité, une société, une organisation.
Comment amener justement ces publics à s'approprier les différentes pistes des solutions?
Comme vous l'avez remarqué, dans le livre, j'essaye de parler du contenu. On est habitué dans notre pays et partout à voir un leader comme celui qui se présente au sommet seulement de l'institution. Et parfois, les gens se définissent par rapport à eux-mêmes. Je suis directeur, je suis chef des bureaux, je suis coordonnateur, c'est moi le leader. Mais je commence à donner un autre paradigme dans le livre en disant, attention, il faut vous définir par rapport à votre contenu. Vous avez une organisation qui ne marche pas, ben vous n'êtes pas un bon leader. Vous avez une entité qui n'atteint pas ses performances, vous n'êtes pas un leader. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir quitter l'approche cosmétique où justement le leader c'est un individu spectaculaire versus où le leader est tout simplement la traduction d'une performance de son organisation. Et donc ce livre justement est un outil de formation, va aider les gens à être capacités et comme vous avez vu, plusieurs dimensions ont été développées, dont notamment par exemple l'appropriation de la destinée de la société. J'ai évoqué par exemple le fait qu'un leader doit être quelqu'un qui prêche par l'exemple et non pas seulement par des arrêtés ou par des notes d'instruction. Mais aussi, je suis revenu, comme vous avez vu, sur plusieurs théories de la performance en disant, attention, il y a des outils qui existent pour pouvoir engager les organisations vers la performance, mais on ne les engage pas sans mettre ces outils en place. Notamment, j'ai parlé du plan d'action décliné, j'ai parlé des cadres de performance, justement, qui sont des outils, en fait, qui sont comme des couteaux à double tranchant. Au sens de tout ça, l'homme reste pour moi l'acteur principal. Donc, l'outil en soi n'est pas un problème, mais ce sont les personnes qui activent ou qui utilisent ces outils qui doivent justement justement incarner justement ce leadership axé sur la performance organisationnelle.
Quand on observe notre système éducatif, on a l'impression que ces concepts de leadership n'est pas pris en compte. Est-ce qu'on peut dire que parmi les pistes de solutions, vous préconisez en même temps que les systèmes éducatifs congolais puissent intégrer ces concepts?
Justement, donc pour moi, l'outil, c'est vraiment un élément de renforcement de capacité. C'est très important. Les gens doivent être formés. Nous assistons parfois à des personnes qui arrivent au niveau des exécutions ou les gens qui prennent la direction des institutions, mais très peu sont formés, très peu comprennent ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, cet outil, c'est pour dire attention, si vous devenez chef d'entité, efforcez-vous déjà premièrement à comprendre comment vous recrutez vos équipes. Je parlais notamment et j'ai taqué de manière assez ouverte cette question de donner des postes aux gens par quota, hein, par affiliation tribale versus que la méritocratie monte en puissance, mais aussi qu'on forme les gens, parce que vous ne pouvez pas avoir un contenu fort, vous ne pouvez pas avoir un contenu lié à la performance de votre organisation si les personnes ne sont pas formées. Nous assistons aujourd'hui à de nombreuses personnes qui sont dans des institutions qui pensent travailler pour l'autre et qui ne font aucun effort pour comprendre où est-ce qu'on va mener l'organisation, qu'est-ce que l'organisation veut avoir comme performance. Ça reste l'affaire du chef seul. Et donc aujourd'hui, travaillons sur le contenu, faisons en sorte que quand nous engageons notre démarche vers la performance, nous l'engageons avec un collectif. Et donc le livre est un outil de formation. Et moi j'invite justement tous les dirigeants, où que vous soyez, quelle que soit la nature de votre entité, de vous faire former, parce qu'en fait, la formation donne un contenu à un collectif et c'est le collectif qui engage vers la performance.
Où est-ce qu'on peut acheter le livre?
Ah ben, le livre, vous pouvez le trouver sur le site d'édition. Je crois qu'un numéro va être partagé à travers les radios, les télévisions, donc vous pouvez l'avoir. Mais surtout, on pense qu'avec le temps, on va lancer une série de formations. N'hésitez pas d'accéder à ces formations à la fois pour vous-même en tant que dirigeant, mais aussi pour les personnes qui sont avec vous, parce que demain après vous, ce sont les gens avec qui vous étiez qui vont vous remplacer. Et si ces personnes n'ont pas été exposées à des thématiques du genre, n'ont pas été exposées à des outils, c'est comme ça que parfois des gens qui se permettent de dire après moi c'est le déluge, après moi c'est l'hécatombe. Pour éviter ça et assurer une continuité vers la performance, essayons justement de nous former et l'outil sera très accessible à l'ensemble de la population congolaise et ailleurs.
Merci docteur.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.